Amen. Bonsoir mes frères et sœurs. Ouvrons le Saint-Livre dans le psaume numéro 13. Peut-être que vous avez une Bible avec des titres dans les chapitres. Si vous avez des Bibles assez conséquentes, vous avez des titres. Quel est le titre du psaume 13 dans votre Bible? Comment? Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Le thème c'est l'épreuve du temps. Vous avez un autre titre? Le psaume 13. Alors les titres ne sont pas inspirés, c'est pas. Les titres, c'est les traducteurs qui ont rajouté des titres. Alors on le lit, s'il vous plaît. Psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Heureusement que le psaume ne s'arrête pas au verset 5. Il y a l'expression d'une souffrance intérieure. Est-ce qu'à des moments, il faut l'extérioriser, la souffrance? Oui. C'est bon de répandre son cœur devant Dieu. Mais il y a cette décision du cœur. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Alors des fois dans le monde, on vous dira, oui, les gens qui disent « moi », c'est de l'égoïsme. Mais non, à un moment donné, il faut savoir s'exprimer, exprimer sa foi. Et David, qui est dans un moment difficile, très difficile, va prendre la décision, d'ailleurs c'est pour ça que ce psaume est inspiré, de dire « moi, j'ai confiance en ta bonté ». Et il y a plusieurs psaumes comme cela, je pense au psaume 42 ou 43, c'est le psaume 42, oui, qui a un petit peu la même teneur, on sent cette souffrance. Vous savez, il y a des temps d'épreuve, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des temps d'épreuve. Moi je vous dis, mon titre c'est « l'épreuve du temps ». Alors juste avant, on l'a lu en introduction pour le jeûne et prière, dans le psaume 9, au verset 11, moi je vous assure, c'est un verset par lequel Dieu m'a vraiment parlé. C'est une parole qui m'a fait faire des véritables progrès. Vous avez remarqué ça, qu'il y a des versets qui s'imposent à votre cœur et qui vous font faire de véritables progrès. Et moi je peux vous assurer, c'était juste après mon accident cardiovasculaire, je me suis arrêté sur ce psaume, le psaume 9, au verset 11. Et quand il est dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. C'est une vérité. Si vous connaissez Dieu, je ne dis pas si vous connaissez la Bible, si vous connaissez Dieu, plus vous le connaissez, plus vous êtes obligé de vous confier en lui. Et c'est pour ça que c'est important de méditer. Alors les travers, jusqu'à quand, et pourquoi j'aurai des soucis, et pourquoi ci, et pourquoi là. On s'en pose des questions. Un couple de chrétiens qui ont un enfant qui meurt. Tout à l'heure, on m'a téléphoné pour prier pour un enfant. Un couple qui a un enfant de 8 ans, il est en train de mourir. Un couple de chrétiens, un couple de pasteurs. Est-ce que ça peut arriver qu'un enfant meure dans un foyer chrétien? Ben oui, c'est déjà arrivé. Ben oui. Un croyant qui quitte sa femme, est-ce que c'est déjà arrivé ça, qu'on voit un couple chrétien, un couple vraiment attaché à Dieu, paf, l'épouse qui aime Dieu, tout d'un coup son mari s'en va avec une autre. Est-ce que c'est déjà arrivé des choses comme ça? Est-ce que ça arrive? Eh oui, ça arrive. Et on pourrait multiplier les exemples. Quelqu'un qui, un ami qui tombe malade, est-ce qu'on n'a pas été des fois affecté par la maladie de quelqu'un? Eh oui. Et on pourrait multiplier les exemples. Quelqu'un qui est honnête, qui est intègre, et paf, tout d'un coup, il se retrouve au chômage, il a un loyer à payer ou une maison à payer, etc. Et on pourrait multiplier la liste d'épreuves que nous pouvons traverser. Et lorsqu'on est dans l'épreuve, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans l'épreuve? Franchement, ça me passe des choses dans la tête. Pourquoi ? Et David, qui est un homme de Dieu, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand je devrais supporter ? Parce qu'on se dit quand même, Seigneur, tu vois, je suis là dans l'épreuve. J'ai perdu alors que je marche avec toi, j'ai perdu ci, j'ai perdu là. Jusqu'à quand tu m'oublieras ? Seigneur, si tu pouvais me dire une phrase ou un petit mot, juste un mot, ça serait quand même, hein, ça serait quand même un encouragement pour moi. On n'a jamais dit ça ? Ça vous est jamais arrivé ? Seigneur, mais juste une petite phrase, juste un petit mot, Seigneur, je contrôle tout, mais que je l'entende. Je contrôle toute chose, ce n'est pas beaucoup de mots. Ce n'est pas vrai, on n'a pas dit, Seigneur, un mot, Seigneur, dis un mot pour que je puisse être fortifié. En plus, pour peu que nous lisions la Bible, et heureusement que nous la lisons, il y a des gens dans l'épreuve qui ne lisent pas la Bible, alors là c'est dangereux, mais quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression, c'est l'impression, hein, que Dieu parlait tout le temps à tout le monde. Vous regardez Pierre, il est en prison, paf, un ange qui lui apparaît pour le sortir de la prison. C'est pas une belle expérience, ça ? C'est beau quand même, franchement. Paul qui s'interroge sur la doctrine, là c'est le comble ça, Paul s'interroge sur la doctrine, Dieu le ravit au troisième ciel pour en parler avec lui. Abraham, vous avez l'impression que Dieu lui parlait tout le temps, alors que parfois il se passait 10 ans ou plus sans que Dieu n'intervienne pour lui parler. Et on voit Abraham, il se querelle avec Lot, paf, Dieu lui parle par rapport à quelque chose, une direction bien précise. Alors nous, on se dit, mais quand même, Seigneur, quand je vois l'histoire d'Abraham, quand je vois l'histoire de Pierre, de Paul, Seigneur, si tu m'envoyais un ange à moi aussi. Eh ouais. Est-ce que vous avez déjà demandé à Dieu qu'il envoie un ange pour vous parler ? Dites-moi-le. Non ? Est-ce que ça peut arriver d'avoir demandé à Dieu qu'il intervienne d'une manière particulière pour... Oui ! Et pourtant, Dieu n'est pas toujours intervenu, non ? Et on se dit quand même, moi je suis sûr que si un ange m'apparaissait, ma foi serait beaucoup plus forte. Alors écoutez-moi bien, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. En tous les cas, une chose est certaine, nous sommes tous confrontés à ce que David a vécu dans le psaume 13. Pourquoi, Seigneur, tu n'interviens pas ? Pourquoi tu m'oublies ? Oui ou non ? Ça arrive, ça. En plus, on est là, quand même, Seigneur, tu as dit que tu étais notre Père. On peut quand même déclarer tous, Dieu est un Père aimant. Oui ou non ? Est-ce que Dieu vous aime ? Vous croyez que Dieu vous aime ? Vous croyez qu'il est votre Père ? Alors, Seigneur, si tu m'aimes et si tu es mon Père, c'est tout à fait normal que tu me répondes d'une manière claire quand je t'invoque. Alors, c'est là qu'on commence à arriver à... Mais si Dieu ne me parle pas, si Dieu ne me répond pas, c'est qu'il ne m'aime pas. On n'a pas entendu ça ? Si Dieu ne me répond pas, mais peut-être qu'il ne s'intéresse pas à moi. Combien de gens m'ont dit, mais de toute façon, Dieu ne doit pas s'intéresser à moi, je prie, et rien ne se passe. Et Dieu ceci, et Dieu cela, toutes choses concourent au bien, oui tu parles, toutes choses concourent au bien de ce qu'aime Dieu, moi je suis pas d'accord. Et on commence à remettre en question la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait quand je souffre ? Est-ce que ça vous est arrivé de vous poser ? Moi, ça m'est arrivé de ne pas dormir des moitiés de nuit, à demander à Dieu, mais Seigneur, pourquoi je traverse ça ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi si ? Pourquoi là ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai besoin de toi, et toi, tu te tais. Vous l'avez vécu, ça ? Est-ce que vous l'avez vécu ? Bon. Nous, on veut comprendre. Nous, on a besoin de comprendre. Et Dieu fera de toute façon que petit à petit nous comprendrons. Ça passera toujours par la parole. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Tout à l'heure, je parlais avec un monsieur qui me disait que dans une épreuve qu'il traversera depuis 24 heures, il n'a pas eu le réflexe de lire la parole. On devrait avoir ce réflexe de lire la parole. Regardez avec moi dans le Proverbe 2. Vous savez, ce sont des textes. Moi, je vous encourage à apprendre des textes par cœur. Parce que lorsque l'adversité se présentera, le Saint-Esprit vous le rappellera. Croyez-moi, et je sais de quoi je parle. Proverbe chapitre 2, on a besoin de comprendre. Et le but de cette exhortation ce soir, c'est que nous comprenions mieux comment Dieu intervient, n'intervient pas, vous allez comprendre, dans l'adversité. Proverbe chapitre 2, verset 1er. Mon fils... Vous avez remarqué que souvent dans la Bible, il y a des conditions. Le petit mot « si » est toujours un conditionnel. Si tu reçois mes paroles, pas les écouter comme ça bêtement, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec moi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous avez vu tous les conditionnels qu'il y a ? Mes frères et sœurs, c'est sérieux ces choses. Comprendre la crainte de l'Éternel. Mais regardez comment le livre des Proverbes commence. Regardez, je dis souvent aux stagiaires que je forme, je leur dis, appuyez vraiment, regardez bien les verbes. Les verbes actifs, c'est quelque chose d'important dans la Bible. Proverbes chapitre 1, verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens. Il n'y a pas que le spirituel. Pour de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner au simple du discernement et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Qu'il écoute. C'est ce qu'on a chanté, le dernier chant, c'est ça ? Que le sage écoute. Et mes frères et sœurs, vous avez vu tous ces verbes, toutes ces conditions, Dieu veut que l'on comprenne. Alors, cette nuit, hier soir en vérité, mais cette nuit aussi, Je priais, et je me suis réveillé, et j'avais besoin de lire, et j'ai lu le psaume 13. Et je savais que c'était ce psaume qui allait servir d'introduction à cette prédication sur l'adversité. C'est un sujet peut-être qu'on n'aborde pas souvent, mais c'est un sujet que l'on doit aborder, parce que la Bible nous enseigne beaucoup de choses sur l'adversité, et surtout à réagir intelligemment dans l'adversité. Alors, le mieux, je crois, pour parler de l'adversité, enfin, un des cas les mieux, c'est de lire l'histoire de Joseph. Vous avez lu l'histoire de Joseph dans la Genèse ? Vous avez lu l'histoire de Joseph ? Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose, je sais pas si c'est personnel. Pendant des années, je n'ai pas pu prêcher sur Joseph. Vous savez pourquoi ? Chaque fois que je lisais cette histoire, je pleurais. Chaque fois. Des années. Ça fait que je me dis, bon, tu ne vas pas prêcher sur Joseph, tu ne vas pas pleurer. Je vous promets, je ne pouvais pas prêcher sur l'histoire de Joseph. C'est une histoire extraordinaire, l'histoire de Joseph. Ce que cet homme a vécu. Alors, on va lire un petit peu. Vous l'avez lu son livre ? L'histoire, c'est du chapitre 37 à la fin presque, pour ainsi dire. Genèse 37, je vous ferai remarquer qu'il n'y a que deux ou trois chapitres sur la création du monde. Je crois qu'il y en a 11 sur Abraham, et je ne sais pas combien il y en a sur la vie de Joseph. Donc, Joseph a commencé à avoir des épreuves à l'âge de 17 ans. C'est jeune ? C'est jeune, 17 ans ? À 17 ans. Genèse 37, verset 2. On ne va pas tout lire, on ne peut pas tout lire, mais on va lire des versets qui nous indiquent ce qui s'est passé. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et les fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Parce que les frères, ils disaient des choses qui n'étaient pas bien. Et Joseph, lui, qui était tout jeune, le rapportait au père. Il disait, tu sais, papa, Judas avec Zabulon, ben ils ont dit ça. Il faisait. C'était bien ou c'était pas bien, en fait ? On lit la suite ? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Vous vous rendez compte ? Ils ne pouvaient pas lui parler, tellement ils avaient de la haine. Quand il parlait avec lui, cette haine, de toute façon la haine, au bout d'un moment, ça ressort toujours, hein, faut pas rêver. En plus, verset 5, Joseph eut un songe, alors je peux vous dire que ça ne va pas s'arranger. Et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu, il n'avait que 17 ans. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Je ne sais pas s'il a capté sur le coup. Ses frères lui dirent, est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. C'était la famille de Dieu quand même. C'était l'église de l'époque. Il eut encore un autre songe. Alors c'est pire. Il le raconta à ses frères. Alors, je vais poser une question quand même, parce que moi j'ai lu plein de commentaires sur ça. Il y a des gens qui disent quoi, c'était un orgueilleux. Alors, est-ce que Joseph était un orgueilleux? Puisqu'il racontait ses songes à ses frères. Non. Vous savez pourquoi c'est pas possible? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Par contre, je pense qu'il était naïf. Vous voyez ce que je veux dire? Il était naïf. Mais moi, j'ai lu plein de passeurs, de commentaires de théologiens qui disent oui, c'était. Moi, je pense que ce n'est pas possible que c'était un orgueilleux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on dit certaines choses, certaines expériences, qu'on est orgueilleux. Oui. Alors, il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, mais que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Voilà comment l'histoire commence. Un jeune homme de 17 ans qui est le préféré de son père. Est-ce que c'est sa faute après tout? Est-ce que c'est pas sa faute? En plus, son père, il lui fait faire une tunique de plusieurs couleurs. Vous voyez, il se démarque des autres frères par un habit de luxe. Imaginez, vous achetez un jean et un vieux polo, et puis après, le costume à l'autre. C'est ça qui s'est passé. Un gros costume à l'autre. Jalousé par ses frères, la haine. C'est terrible, la haine, entre frères. Oui ou non? Ils le haïrent. Alors c'est sûr que peut-être il a été... Moi je pense qu'il a été maladroit. Est-ce qu'on peut être maladroit dans la vie? Bien sûr qu'on peut être maladroit. On pense bien faire, on est naïf, on est nigaud, on ne pense pas que les gens... Parce qu'on ne soupçonne pas le mal, on ne s'imagine pas que si on raconte une expérience, les gens vont être jaloux. Il y a des gens, c'est terrible. Et pourtant dans les frères là, il y a Judas. Judas, l'ancêtre de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il y a la généalogie de Jésus. Heureusement que le Seigneur, il est patient avec nous. Alors, je ne sors pas de mon sujet. Dans ce contexte-là, bon, Joseph restait à la maison. Mais un jour, son père lui a dit, écoute, j'aimerais que tu ailles voir comment vont tes frères. Ils étaient partis, vous savez, paître les troupeaux. Ils les avaient envoyés à Sichem. Et voilà, parce qu'on ne se rend pas compte de les distances. Ça fait de longues distances. Il y avait une vingtaine de kilomètres. Puis il arrive, il voit qu'il n'y a pas ses frères. Il demande à quelqu'un, tu ne sais pas où il y a mes frères. Si, ils sont partis à Sichem. Ça fait 40 kilomètres de plus quand même. À pied tout ça, on ne se rend pas compte. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait, Joseph? Il obéissait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est en train d'obéir. Et je crois que quand on lit la parole de Dieu, il faut bien voir cette affaire d'obéissance. Joseph, il est le préféré. Il n'y est pour rien, le pauvre. Il n'y est pour rien. Ce n'est pas lui qui a dit, papa, fais-moi une tunique de plusieurs couleurs. Il reçoit des songes de la part du Seigneur. Il les raconte parce que lui, il est content comme tout de raconter un songe. Puis les choses avancent. Dieu est là. Et va voir tes frères. Et quand ses frères le voient arriver, verset 18, c'est quand, vous savez, on connaît l'histoire, vous connaissez la fin surtout. Quand on connaît la fin, c'est facile de lire. Mais je crois qu'on ne devrait pas, on devrait chaque fois se faire violence et dire comment ils ont dû vivre ça. N'oublie pas, il a 17 ans. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Vous vous rendez compte? C'est leur frère, leur petit frère. C'est le peuple de Dieu. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Ils supportaient, ils n'ont pas supporté cette affaire de songes où eux, les aînés, allaient s'incliner devant lui. Ça, ils ne l'ont pas supporté. Venez maintenant, tuons-le. Vous ne trouvez pas que ça fait, c'est quelque chose quand même, non? tuons-le, jetons-le dans une de ces citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est ça. Vous ne trouvez pas que c'est dur quand même, non? Il a 17 ans. Il est en train d'obéir à son père. Il est dans la fidélité, dans l'obéissance, et voilà que ses frères envisagent de le tuer. Je vous rappelle que ce sont les ancêtres de Jésus, la lignée messianique. Merci, sa patience est notre salut. Vous le croyez ça, que la patience est... Et là, ils arrivent, ils commencent à le frapper. Vous savez, il a 17 ans, il y a quelques jours. Être frappé par ses frères, ils vont le dépouiller, le déshabiller, le jeter dans une cité, l'insulter. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce jeune homme, là, dans cette citerne, moitié nu, blessé, il ne savait pas s'il allait être en vie le soir ou le lendemain, en tous les cas, parce qu'ils ont bien fait comprendre qu'ils allaient le tuer. Je sais pas. Est-ce que vous vous imaginez? On pourrait se dire à ce moment-là, oh, Dieu va lui parler. Mais écoutez, Dieu va lui parler. Est-ce qu'il n'avait pas besoin d'une parole de Dieu à ce moment-là? Il n'avait pas besoin d'une parole de Dieu. Et là, on pourrait se dire, ah, c'est clair, moi je connais Dieu, il va lui parler. Dieu n'a rien dit. Pas un mot. Pas un mot. Par hasard, je le mets entre guillemets. Je ne crois pas au hasard. Un chrétien, il ne croit pas au hasard. Vous croyez au hasard, vous? Bon. Mais c'est une façon de parler. Par hasard, une caravane d'Ismaélites passe. Et là, il y en a un qui dit quand même, bon, qui a un peu plus de conscience que l'autre, on ne va pas avoir du sang sur les mains. Ce qu'on va faire, à la place de le tuer, on va le vendre. On va le vendre comme esclave, comme un animal, oui. On va le vendre comme esclave, il va nous débarrasser le pencher, il va aller en Égypte, ça va être un esclave, on n'entendra plus parler. C'est ce qui s'est passé. Il a, je le répète, parce que je pense que l'âge, ça joue quand même l'âge. 17 ans... Il n'y a pas la maturité de quelqu'un de 30 ans, de 40 ans, etc. Vous êtes d'accord avec moi quand même, hein? Quand on est jeune, on n'a pas la même assurance, la même force psychique, etc., etc. Donc, il le sort de la citerne et le voilà attaché, vendu. Ils l'ont vendu, je ne sais pas combien d'argent. Il est là, moitié nu, attaché à un chameau sûrement. Et imaginez-vous, il est parti à 17 ans, attaché derrière un chameau. Combien d'heures et de jours, de semaines, il a passé là, comme une bête. C'était un juif, je ne sais pas si vous rendez compte, un juif avec tous ces Égyptiens, je ne vous dis pas l'ambiance. Comment il a dû être insulté. Et je suis persuadé que le soir, quand il devait se coucher la tête sur une pierre, il a toujours 17 ans. Hein. Je ne sais pas à quoi il devait penser. Mais je pense qu'il devait dire, Seigneur, une phrase, Seigneur, donne-moi une phrase. Et qu'est-ce que Dieu dit? Rien. Dieu n'a pas parlé. Est-ce qu'il n'avait pas besoin d'une parole, là? Est-ce que vous vous imaginez, parce que nous, on sait la fin, mais est-ce que vous vous imaginez ce qui peut se passer dans la tête d'un jeune garde, d'un enfant, d'un ado de 17 ans? Là, dans ces conditions, ils ne parlaient pas leur langue, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il part comme ça, il sait qu'il va être vendu, comme un animal. Et encore, à l'époque, moi que j'ai lu des trucs sur l'esclavage, les chevaux, par exemple, avaient plus de valeur que les hommes, ou que les femmes. On soignait un cheval, mais un esclave, on le laissait mourir, parce que on en achetait un autre, ça revenait. C'était plus intéressant de soigner un cheval que de soigner un esclave. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette affaire-là, ce n'était pas sa faute s'il était le préféré de son père, ce n'était pas sa faute s'il avait fait des songes, etc. Mais voilà, il s'en va. Je ne sais pas s'il devait penser à ses rêves, à ses songes, mais c'est ce qui était en train de se passer et Dieu se taisait. Alors peut-être il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a dû dire, j'aurais jamais dû raconter mes songes, c'est sûr. Est-ce qu'il a dû y penser à ça? Vous savez, ça va durer longtemps l'affaire. Il a dû y penser parce que ça passe, ça turbine là-dedans. Il a, des fois, l'affaire d'une heure, il s'en passe des choses. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, franchement, en suivant ces chameaux, je ne pense pas qu'il était sur un char en train assis, les doigts en éventail. Je ne sais pas si on est compte, la chaleur, lisez des bouquins sur l'esclavage et vous allez voir comment ils étaient traités. Moi, je pense qu'il avait besoin d'une parole et Dieu ne lui a rien dit. Il arrive en Égypte après quelques semaines, certainement quelques semaines, oui, minimum, de marche dans le désert, dans une certainement une souffrance, une saleté pas possible. Et là, il fut vendu à Potiphar, c'était un marchand, c'était le chef des gardes, le général de Pharaon. Bon. Et là, vous connaissez la suite quand même, vous la connaissez l'histoire. Hein, là, ça se passe bien. Verset 39, mais on sait pas, chapitre 39, mais on ne sait pas combien de temps ça a duré, on ne peut pas savoir. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, et qu'il y avait fait descendre. Vous avez remarqué cette parole extraordinaire, même si Dieu ne lui parle pas, il est quand même écrit, l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. C'est beau ça, quand les gens voient qu'on est vraiment des chrétiens. Ça, c'était... Mais on ne sait pas combien de temps ça a duré, parce que là c'est résumé en 3 versets, mais ça a duré peut-être 3 ou 4 ans, avant qu'il ait la confiance. De toute façon, il a fallu qu'il apprenne l'Égyptien, etc. Avant qu'il ait la confiance de son maître, pour qu'il lui confie toute sa maison, vous croyez que ça a pris 3 semaines? Sérieusement, ça a pris, je ne sais pas moi, 1 an, 2 ans, vous comprenez? C'est impossible. On n'est pas des spécialistes, mais vous comprenez bien que ça ne s'est pas passé en 15 jours. Ça a pris 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas combien de temps il a dormi peut-être dans une écurie. Je vous dis, quand vous voyez, allez voir la vie des esclaves à l'époque. On sait pendant combien de temps il a nettoyé les écuries, il a peut-être mangé, il a été insulté, on ne sait pas ce qu'il a vécu. Pendant peut-être 3, 4, 5, 6 ans. Avant que la faveur de Dieu soit sur lui. Il me semble que là aussi il a dû s'en passer des soirées où il a dû dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Et Dieu ne lui a pas parlé. Mais lui, il est droit. Il trouve grâce et Dieu le bénit. Et voilà, et l'histoire pourrait se terminer là. Et on pourrait dire, c'est super. Malgré tout, ça se termine quand même assez bien. Voilà, il a été droit, il a été fidèle. Dieu le récompense. Et voilà que dans la foulée, la femme de Potiphar va porter les yeux sur lui. Il nous a dit qu'il était beau. En plus, ce n'est pas sa faute. Et il s'est écrit, c'est écrit. Verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Bon, c'est pas possible. C'était pas sa faute en plus, non? Bon, enfin, c'était bien, c'était quand même bien, oui ou non? Mais qu'est-ce qui se passe? Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'a pas de plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es aussi sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parle à tous les jours, ça ne durait pas combien de temps, 1 an, 2 mois, 6 mois. Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ça, c'est des mots importants, ça. Vous vous rendez compte? Il est à 1500, 2000 kilomètres de chez lui. Personne n'est au courant. Est-ce qu'il aurait pu coucher avec elle? Vous savez, moi, une fois, j'étais dans une église, j'en ai été malade. Je faisais une réunion de jeunesse. Chaque fois que je lis ces trucs, j'y pense. Et j'ai dit, voilà, je vais vous poser une question. Les garçons, vous allez me dire la vérité devant Dieu. Vous seriez à 2000 kilomètres de chez vous. Vous êtes tout seul. Tout seul. Personne ne vous voit, personne ne le saura. Vous avez la possibilité de coucher avec une femme, mais personne, à part Dieu, bien sûr, mais personne ne le saura. Est-ce que vous le faites? Ils ont tous levé la main. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment ça va. J'ai failli pleurer et partir. J'ai pas osé. Vous rendez compte, vous partez, vous êtes en train de... J'ai failli partir. Mais c'est pour vous dire que on voit quand même ce qui se passe. Cet homme, il est là, fidèle, loyal, honnête, intègre. On pourrait dire, bon, mais là, Dieu va le bénir. Non, qu'est-ce qui va se passer juste après? il va se retrouver en prison. Pourquoi ? Parce qu'il est droit, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est juste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et est-ce qu'il n'avait pas besoin, là, ce soir-là, d'une petite parole du Seigneur ? Franchement, vous croyez, c'est peut-être lui qui a composé le psaume 13, c'est David, mais peut-être il lui a soufflé un mot. Est-ce que, mes frères et sœurs, est-ce qu'il n'avait pas besoin d'une parole de Dieu ? Il est toujours jeune. Il est toujours jeune, on ne sait pas quel âge il a. Quand il se place devant Pharaon, il a 30 ans. Et on sait au chapitre 41, à la fin, non, oui, au chapitre 41, au bout de 2 ans. Donc, il a fait plusieurs années en prison. Et il est, je le répète, Dieu ne lui parle pas, il n'y a rien qui se passe. Et lui, il obéit. Il se retrouve en prison, après quelque temps, pareil. Après quelque temps, la bénédiction de Dieu est sur lui. Voyez, 39 verset 20, il prit Joseph, le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'épreuve que Dieu ne sera pas avec nous. Ne vous imaginez pas un instant que parce que vous êtes dans l'épreuve, parce que Dieu ne vous parle pas, parce que les choses ont mal tourné, parce que les gens ont de la haine contre vous, ne vous imaginez pas que Dieu ne va pas vous abandonner. L'Éternel était avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, etc. Pareil, Dieu bénissait Joseph. Par hasard, quelque temps après, il se trouve que dans la prison que Joseph supervisait, il se trouve qu'il y a 2 responsables de la maison de Pharaon, le panetier et les chansons. Emprisonnés parce qu'il y avait eu un problème grave et un des 2 était responsable. Donc Pharaon les fait emprisonner. Et comme par hasard, je vous ferai remarquer que pour que les plans de Dieu s'accomplissent, Dieu va utiliser, entre guillemets, 2 inconvertis. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que Dieu peut utiliser des gens de l'extérieur pour que ses plans s'accomplissent ? Oui. Donc, et moi j'aime beaucoup la façon, vous lirez l'histoire, la façon dont Joseph se comporte. Ces 2 hommes, ils sont en prison, c'est leur faute. Lui, il est en prison alors qu'il est innocent. Et regardez, au verset 6 du chapitre 40. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? Vous voyez, on voit de suite un homme, il est écoutez bien mes frères et sœurs. Il est en prison parce qu'il a obéi à Dieu. Ça fait des années qu'il n'a pas eu une visite, pas vu la famille, pas reçu un coup de téléphone, rien. Vous êtes d'accord ? Vous me croyez ? Pas reçu un courriel, rien. Et il s'intéresse au bien de ces 2 personnes. Et vous savez combien de gens, parce qu'ils sont dans l'épreuve, ouais, moi de toute façon j'en ai marre. Vous savez, on se demande, moi, parce que quand même moi j'étudie la Bible, pour moi, pour vous, quand on voit l'Éternel fut avec lui, il eut la faveur de Dieu, il eut la grâce de Dieu, mais on le voit, il est dans l'épreuve, il s'intéresse. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous n'avez pas l'air bien aujourd'hui. Eh bien, nous avons eu un songe et personne pour nous l'expliquer. Et vous avez vu sa réponse au verset 8 ? Regardez bien, ça fait des années d'épreuves, des années où Dieu se tait. Et qu'est-ce qu'il dit ? Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Mais vous, mes frères, vous avez vu, il a quoi ? Il a 25 ans, 23, 28, on sait, au moins, au plus 28, puisque ça va durer 2 ans. Je pense qu'il a 28 ans, oui, je ne peux pas me tromper là. Il a 28 ans. Là, à cette époque-là, il a 28 ans. Qu'est-ce qu'il dit ? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Donc, le panetier va. Non, les chansons vont raconter son songe. Il va dire, écoute, voilà le songe. Les 3 coupes, c'est clac-clac, c'est 3 jours. Dieu va te relever. Voilà, Pharaon va remettre la coupe dans ta main. Voilà, tu seras relevé. Oh, il est content et tout. Et le panetier dit, ah bon, raconte-moi le mien. Il pense que ça va être bien pour lui aussi. Et Joseph va dire la vérité au panetier.
voyez, il est emprisonné, mais il est honnête. C'est bien d'être honnête et de dire la vérité toujours. Parce que c'était quand même le panetier de Pharaon, c'était des hommes qui avaient un grand pouvoir, et il n'a, voyez, il a dit la vérité. Vous savez, mes frères et sœurs, même si Dieu se tait, même si je suis dans l'épreuve, même si ça fait des années que Dieu ne m'a pas parlé par rapport à une direction précise, je peux rester dans cet état de grâce et dire oui, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications. Vous pouvez le dire ça ce soir dans votre cœur ? Est-ce que vous pouvez le dire dans votre, pas haute voix, mais est-ce que dans votre cœur vous pouvez dire oui, moi aussi je suis dans le même état de cœur, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications ? Et bien sûr, lui, David, même s'il n'a que 28 ans, vous savez que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Alors, il lui dit, parce que je veux résumer pour pas, souviens-toi de moi, il lui dit. Oui, au verset 14, vous voyez ? Souviens-toi de moi. Il n'a pas mis de rester là, bien sûr. Genèse 40, verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Je ne sais pas si on est compte. Il a droit. C'est un esclave. Est-ce que vous pouvez faire appel ? Est-ce que vous pouvez demander un procès ? Aujourd'hui, vous avez vu comment ça marche. C'est pitoyable presque. C'est pitoyable comment ça marche aujourd'hui. Mais là, il avait droit à rien. À rien, sinon qu'à mourir en prison. Et donc, il dit à les chansons, il dit, écoute, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, s'il te plaît. Vous avez vu ? Verset 23. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. C'est pas vrai. Les amis, maintenant. Le seul ami que j'aurais pu avoir, il m'oublie. Seigneur, parle-moi. Mais vous savez, moi, j'ai médité cette histoire des années. Des années. Si je croise Joseph dans la rue, je le reconnais. Il l'oublia. Mais est-ce que c'était bien qu'il l'oublie, au fait ? Moi, je me suis posé la question. S'il l'avait fait sortir, les chansons l'avaient fait sortir, paf, il aurait mis de suite peut-être au rang des sages, vous avez des conseillers. Et quand il y aurait eu l'affaire des vaches maigres et des vaches grasses là, eh bien, Joseph serait resté conseiller. Il n'aurait pas eu ce décalage qu'il y a eu quand il... Vous comprenez ce que je veux dire ? Il aurait été conseiller du roi, pas plus. Il ne serait jamais devenu premier ministre. C'est sûr et certain. Donc il oublie, et vous voyez, le Saint-Esprit dit, au bout de 2 ans, ça a encore duré 2 ans. Il avait 30 ans. Et il est resté intègre. Alors on pourrait se dire, bon... Quand même, cet homme, 13 ans, c'est long quand même, 13 ans. 13 ans, mais je vous dis, mais nous, je pense qu'on ne calcule pas ce qu'il a vécu. Parce que nous, aujourd'hui, la prison, vous avez vu, qu'est-ce qu'ils ont les prisonniers aujourd'hui ? Ils ont tout. En tous les cas, cet homme, loin de chez lui, étranger, sans aucun recours possible, sans rien, sans argent, sans amis, sans rien, il est resté droit. Et après, Dieu lui a parlé. Alors, la question qu'il faut se poser pour terminer, Dieu n'a pas parlé pendant ses 13 ans. Son père, c'est pareil. Son père, il croyait que son fils était mort par une bête sauvage. Ça a duré plus de 20 ans, l'affaire, quand il a appris qu'il était vivant. Dieu aurait pu envoyer un ange à Jacob. Après tout, ça n'aurait pas été la première fois. Écoute, t'inquiète pas, ton fils, il est vivant. Et son père est resté avec cette douleur pendant plus de 20 ans, puisqu'il y a eu les 13 ans. Et puis après, il y a eu les 7 ans de vache grasse. Donc ça fait 20 ans, 13 et 7, ouais, ça. 20, c'est ça, oui. Non, 21. Plus 2 ans, ça fait qu'il est resté pendant plus de 20 ans en pensant que son fils était mort. Est-ce que Dieu aurait pu lui dire une parole ? Il y a des choses, on peut ne pas comprendre, mais Dieu n'est pas obligé de nous parler. Mais par contre, ce qu'il faut retenir, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dans ce texte, Dieu ne parle pas. Mais je vous pose une question. Est-ce que Dieu agit quand même ? Et c'est ça qu'il faut retenir. Ce n'est pas parce que Dieu ne me parle pas qu'il n'agit pas. Vous en avez la preuve que Dieu agissait. D'ailleurs, vous connaissez comment l'affaire termine. Cette histoire, elle est extraordinaire. Bien sûr que Joseph, c'est un type de Jésus-Christ. Mais lui, regardez, à la fin quand le père est mort, les frères ils commencent à avoir peur. Ils vont se dire, il va nous faire payer ce qu'il nous a fait maintenant que papa est mort. On va avoir des problèmes. Mais regardez avec moi. C'est quand même merveilleux. Bon, on va pas voir toute l'histoire. Mais quand il se pointe devant Pharaon, c'est le même état d'esprit. Il dit, mais c'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Donc 13 ans d'adversité, et pourtant Dieu contrôle tout. Vous croyez que Dieu contrôle votre vie? Vous le croyez vraiment? Regardez, Genèse 45. Mais il faut le lire, vous savez, on a lu dans les proverbes, tu comprendras la sagesse, tu comprendras l'intelligence. Genèse 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés. Oui, il n'est pas dans l'amertume, est-ce qu'il aurait pu être dans l'amertume et dire, quand je vais revoir mes frères, est-ce qu'il aurait pu s'occuper d'eux? Il était gouverneur de l'Égypte, est-ce qu'il aurait pu les faire tuer en 5 minutes? Oui, mais s'il avait voulu les faire tuer, il serait resté en prison, le brave Joseph. Parce qu'il fallait qu'il vive, ses frères. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Verset 8. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Vous vous rendez compte? Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et à la fin, 50, verset 20, mais quand même, moi je vous assure, c'est des histoires, moi ça me touche, parce que ça, quand j'étais dans l'épreuve, c'est une histoire qui m'a fait beaucoup de bien, croyez-moi. Genèse 50, verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Et tout ça, ça a servi à la venue du Christ, enfin à tout le reste. Ça a servi à l'exaucement du plan de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Mais moi, je trouve que c'est des paroles extraordinaires. Mais Dieu l'a changé en bien. Et voyez, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes dans le psaume 13, et pourquoi je suis toujours célibataire, je ne comprends pas, et pourquoi, Seigneur, tu m'oublies. Écoutez-moi bien. Faites-lui confiance. Obéissez. Vous avez... Moi, franchement, quand je vois cet homme en prison qui s'intéresse, il aurait pu dire, ouais, mais c'est leur problème. Eux, ils ont fait un truc. Moi, je suis là, j'en ai marre, c'est pas ma faute, Seigneur. Mes frères et sœurs, vous voulez que Dieu soit avec vous? Vous voulez que la grâce de Dieu vous accompagne? Vous voulez pouvoir dire, oui, Dieu changera le mal en bien? Même si des gens vous veulent du mal, Dieu peut utiliser ce mal pour en faire du bien. Moi, franchement, moi, c'est une histoire qui m'a énormément... Je vous dis, pendant des années, je n'ai pas pu prêcher tellement ça me faisait pleurer. Parce que je sais que ça s'est vraiment passé. Et je sais que ce n'était pas quelqu'un qui avait, comme on dit, de la bouteille. C'était un jeune. Mais Dieu a pu trouver quelqu'un, vous voyez, qui a pu faire concourir le bien de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il n'a peut-être pas compris. Mais tout ça, c'était par rapport au plan de Dieu, à l'histoire de l'Église, plus tard. Moi, je trouve que c'est merveilleux. Vous savez, toutes ces années en prison, toutes ces années à souffrir, tout seul, intègre. Elle est belle, cette histoire, oui ou non? Mes frères et sœurs, il n'y a pas de chouchou dans l'œuvre de Dieu. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Moi, depuis Tahiti, c'est quelque chose que j'ai compris. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'agit pas. Si Dieu ne veut pas parler, eh bien, moi, faites-lui confiance. Écoutez-moi, faites-lui confiance. Même si Dieu ne vous parle pas, faites-lui confiance. Vous entendez, mes frères et sœurs? Faites-lui confiance. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Peut-être vous attendez une réponse. Peut-être que Dieu vous fait attendre. Il veut que vous appreniez à lui faire confiance, même s'il ne vous parle pas. Est-ce que vous croyez que Dieu est digne de confiance? Relisez cette histoire. Mais imaginez, 13 ans, tout seul, une injustice totale. Lui, il est embarrassé parce qu'il obéit. Mais la faveur de Dieu est sur lui. Et vous savez, cette année 2016, moi, Moi, je suis sûr que malgré tout ce qui peut se passer, on peut vivre la même chose. Je le répète, Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand Dieu bénit, il bénit. Vous avez envie de faire des expériences avec Dieu ? Faites-lui confiance, ne vous justifiez pas, ne vous énervez pas, ne râlez pas, ne marmonnez pas, ne rouméguez pas. On a vite fait de se faire avoir. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Même si c'est pas exprimé, faites-lui confiance. Quand on lit cette histoire, c'est pas vrai que c'est merveilleux quand même ? Il agissait. Il dirigeait tout. Il contrôle tout. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, laissez-moi vous dire que la faveur de Dieu sera sur vous. Et responsabilité ou pas, c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est la faveur de Dieu. On l'a jeté, bien sûr qu'il a été élevé, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a été un juif premier ministre dans un pays arabe. Quand on y réfléchit, c'est vraiment quand même pas mal. Mais avant d'être élevé sur le trône, il a été jeté, presque nu, tabassé, dans une citerne. Et c'est souvent comme ça avec Dieu. Avant de monter, il faut descendre. Mais faites-lui confiance. Mes frères et sœurs, vous savez, on est là, on a chanté, on a prié, on se retrouve autour de la parole, mais maintenant on va rentrer à la maison. Est-ce que je vais faire confiance à Dieu ? Même si tous mes frères avaient de la haine contre moi, même si toute ma famille est contre moi, eh bien ouais, Seigneur, moi j'ai décidé de te faire confiance. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait se recueillir et lui demander de l'aide ? Et lui demander de l'aide, tout simplement. Vous savez que Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ton Père qui te voit. Et Dieu va voir comment on va le prier. Maintenant, Dieu va voir si on veut imiter la foi de ses patriarches. C'est demandé dans la Bible d'imiter la foi des patriarches ? Oui. D'imiter la foi et la persévérance des patriarches qui ont obtenu les promesses. Notre Père, nous te remercions pour la croix. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu feras ici-bas et tout ce que tu prépares pour l'éternité. Nous te faisons confiance, Seigneur. Tu l'as dit, nous savons que tu le feras. Mais cet état d'esprit qu'avait Joseph, nous voulons l'avoir, Seigneur. Nous décidons de l'avoir. Parce que nous croyons que même quand tu ne parles pas, tu agis, Seigneur Jésus. Tu vois toutes les épreuves que l'on peut traverser au niveau de la santé, au niveau du foyer, au niveau des enfants, au niveau de la famille. Tu vois ceux qui sont peut-être dans de grandes difficultés par rapport au chômage, par rapport à la vie sentimentale. Seigneur, nous voulons tous te faire confiance, pas te prier mécaniquement. Mais vraiment, dire comme Joseph, oui, c'est à toi qu'appartiennent toutes les explications. Alors, Seigneur, tu vois nos vies. Seigneur, accorde-nous cette grâce d'avancer, qu'on soit dans la citerne ou qu'on soit élevé, qu'importe, Seigneur. Qu'on soit blessé, dévêtu ou qu'on soit revêtu de beaux habits, qu'importe, Seigneur. Que l'on soit dans une totale confiance. Parce que tu ne peux pas nous abandonner. Merci Seigneur, oui, d'être notre Père, et de tout conduire, et de nous avoir laissé des histoires aussi merveilleuses. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.